Bonjour, vous êtes sur Fréquence Mistral, bienvenue dans le Jardin des mots. Allez, suivez-moi, mettons le chemin sous nos pieds. Aujourd'hui, nous allons parler de veillée, mais nous allons très largement étendre le sujet puisque nous avons, vous le savez, c'est le but, des invités qui ont leur identité, leur vie, leur... Voilà. Donc c'était les veillées, pourquoi les veillées ? Oh, le temps, la saison, il pleut, le besoin du feu de bois. Et puis, retrouvailles entre amis, retrouvailles entre générations. Alors, sans passéisme, ni crispation sur la tradition, parce que ce n'est pas forcément le but, et que nous sommes bien, bien dans le temps présent. Et j'en veux pour preuve nos invités d'aujourd'hui, que nous allons accueillir. Bonjour Jean Darrot.
Bonjour.
Et bonjour Daniel Domas.
Et bonjour.
Voilà. Alors pour nous mettre dans l'ambiance, je vais vous lire un tout petit texte du Serpent d'Étoile. Le plateau de Malfougas. Quatre feux aux angles d'un carré de terre rase. À côté de chaque flamme, un homme est debout, aux lourds rameaux de feuilles à la main. Autour de cette terre éclairée, la nuit, et juste au bord de la nuit, comme les bouillons d'une écume, les bergers sont assis dans leurs cabans, leurs houppelandes, leurs grandes vestes de velours. Le sarde, il se dresse. Il regarde à droite, il regarde à gauche, et en même temps, c'est le silence à droite, puis à gauche. Alors, on commence ?
A passate i nostri cuolo, se contabili storio. I mustelli ne vuei, in giù de neo. Me va di che Giacu, Giacu, cau parti ai tole fa Anuri te cauana di luga di la plano ai la te cauana che lo sa che tu parti che per lei mei su di la gran mastido da bas come varle a trabaia di la gran mastido da bas come varle a trabaia passo l'estio.
Je vous ai dit pas de passéisme, et pourtant cette chanson, elle date d'il y a bien, bien, bien longtemps. Mais pour moi, Daniel, c'est la voix, et je cite, d'une Méditerranée qui va d'Istanbul à Rio de Janeiro, selon la belle parole de Darius Milhaud. Des chansons en occitan, en provençal, et d'autres en langue méditerranéenne. Des récits, des poèmes en français et en occitan. Voilà, donc Daniel, une présentation. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette présentation parce que ton site est très très secret sur toi-même, mais très riche en témoignages et en textes.
Oui, bah, oui, enfin, bon, et, mais je ne sais pas. C'est moi. D'ailleurs, je m'interroge sur le site. Enfin, c'est des questions que je me pose beaucoup parce que moi, je ne suis pas du tout dans le passé. C'est-à-dire que les outils actuels, Internet, etc. Ils nous sont devenus nécessaires, indispensables. Mais d'un autre côté, ils induisent une culture qui me fait peur. Une uniformisation des cultures qui me fait peur aussi. Une perte d'intimité qui me dérange beaucoup. Et c'est d'ailleurs, si tu ne trouves pas beaucoup de renseignements sur moi, sur le site, c'est sans doute ça que j'avais... Enfin, le site date de 4 ans, je crois. Un moment où je ne m'étais pas posé toutes ces questions, mais peut-être que je me posais quand même une méfiance. Je veux bien que mes textes, je veux bien que tout ça circule, c'est fait pour ça, mais ma petite vie n'intéresse que moi.
Bien. c'est une analyse, voilà. Et Jean, alors Jean, moi je sais qu'il est éditeur, que c'est un éditeur de la ruralité. Oui. Je sais qu'il a beaucoup, à part dire oui, Jean, qu'il a beaucoup, beaucoup de livres à son actif maintenant. Et puis je sais surtout que Jean, on le retrouve dans les foires aux livres, on le retrouve dans les salons du livre et puis dans ces extraordinaires soupes aux livres dont je sais que la 143e a eu lieu à Claret samedi dernier.
Oui, oui.
Donc, l'analyse par rapport aux nouvelles technologies, c'est un petit peu pareil.
De toute façon, non, de toute façon, quand on peut pas rencontrer les gens autrement que personnellement. Et le grand drame de... Alors, on a plein de renseignements sur les gens, mais quand on les rencontre, ils disent « Oui, mais tout ça, c'est pas vrai ». La plupart du temps, voilà, vous allez chercher un nom sur Wikipédia, par exemple, ou sur leur site, et il y a plein de choses qui sont rajoutées par d'autres, inventées, etc. Puis les gens finissent de dire, mais c'est pas tout à fait vrai, je vais t'expliquer qui je suis. Et rien ne remplace une rencontre. Alors ça permet de préparer une rencontre, mais rien ne remplace une vraie rencontre, quoi. Et je pense que si on veut rencontrer Daniel, le mieux c'est de faire ce qu'on vient de faire, rouler en voiture avec lui pendant une heure et on discute. Et puis voilà, je crois que il y en a trop sur les nouveaux médias pour que ça soit la vraie rencontre avec un individu. La rencontre avec un être humain, ça se fait d'être humain à être humain. Alors oui, ça sert pour les gens qui ont besoin de savoir des choses sur des gens qu'ils ne rencontreront jamais. Voilà.
Oui, enfin, c'est vrai que, y compris dans le monde dans lequel je suis, hein, par rapport aux travaux des étudiants, par exemple, c'est vrai qu'on voit énormément de coupé-collés, de choses qui sont construites à partir de documentations dont on ne sait pas si elles sont vraiment vraies.
Mmh. Bah après les nouveaux médias, je trouve que c'est... Et on ne devrait même pas dire nouveau, parce que ça,
tout à fait, ça commence à dater.
Mais je veux dire, que ça soit... Souvent, on pose la question de savoir l'édition numérique, l'édition Internet, etc. Je trouve que ce sont d'autres outils. Il faut arrêter de comparer les choses. Je veux dire, moi, je fais des livres sur papier, mais demain, ils seront peut-être sur du plastique. La question n'est pas là. La question est qu'il faut tout utiliser si on a des choses à partager, à transmettre, peu importe. On n'a pas à faire de guerre entre les différents outils.
Oh non, il y en a assez comme ça de guerre.
Non, c'est pas une histoire de guerre, c'est une question. Moi, ce qui m'intéresse, comme vous, je comprends bien, c'est la rencontre. Mmh. Et moi, finalement, vendre des livres à travers une librairie, sans savoir qui va les lire, ça m'intéresse pas vraiment. Ok, je voudrais bien vendre des livres aussi, c'est pas le problème. Mais c'est pas ça qui va compter. Par contre, moi, ce dans quoi je me lance maintenant avec tous mes problèmes que cela pose, c'est que j'ai envie de multiplier justement les veillées. On en parlait, on disait le mot tout à l'heure. Les veillées, ça en excluant bien sûr tout retour à la veillée ou le papette, la mamette, etc., etc. C'est pas mon truc. Mais la veillée, on va parler. C'est moi qui vais parler en l'occurrence, mais bien sûr que les autres ont droit à la parole aussi, parce que c'est ça, cet échange-là, moi, qui va m'intéresser. Et moi, je ne vais pas me raconter, moi, ça revient, j'ai pas envie de raconter, bon, je serais forcé d'en parler. Ça m'étonnerait qu'on finisse l'émission sans que je vous ai dit que j'étais plus ou moins originaire de Castellane.
Tu vois, ça y est, c'est fait.
Ça m'étonnerait beaucoup. Mais, tu connais la phrase de Yvan Audouard à propos de Fonvieille, moi, je trouve ça merveilleux. Je peux dire, pour le paraphraser, que Castellane, c'est mon pays natal préféré.
Voilà.
Ça, c'est très beau, c'est très beau. Voilà. Et donc, la veillée, la rencontre. C'est pas forcément dans une salle de spectacle, parce que ça peut être aussi dans une salle de spectacle, mais ça peut être chez les gens aussi. Ça peut
tout à fait. Et c'est vrai, alors c'est ce qui vous réunit tous les deux, hein. C'est quand même cette démarche de rencontrer l'autre dans des petits groupes, si j'ai bien compris, et autour de l'histoire, en fait, hein, de l'histoire. On commence par lire un texte, par parler, et puis après, les gens se lèvent, les gens racontent. Comment ça se passe?
Si on parle des soupes aux livres...
Voilà.
Donc, l'idée, c'est simple, c'est que, bon, les gens viennent et puis ils peuvent s'exprimer. C'est un peu différent de ce que disait Daniel. Bon, mais quand même, il leur laisse la parole. Donc, l'idée, c'est que chaque personne qui est là peut lire, dire, compter, raconter, chanter. Et je n'ai pas à exercer de censure. Il y en a bien suffisamment comme ça. Donc les gens racontent ce qu'ils veulent, quoi. Après, c'est aux autres qui sont présents de juger. C'est comme la soupe, la vraie soupe qu'on fait, hein, quand on vous mettait... comment on fait une soupe traditionnellement pour des gens qui ont un jardin? On rentre dans le jardin, on dit, tiens, les poireaux sont en train de monter, donc je vais manger les poireaux, les carottes sont comme ça. Et après, il y a... un jugement qui se fait entre les différents légumes, c'est qu'il y en a qui vont avec et pas. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Donc là, c'est pareil. Il peut y avoir une réaction du public. Les gens qui sont là font leur propre jugement de ce qui se passe.
Alors, à partir d'une belle recette, on va peut-être écouter Daniel qui va nous donner une recette de quelque chose de pas mal.
Vous me direz après, peut-être. Et comme dit Jean, on fait à manger avec ce qu'on a.
Oui.
Alors, c'est fortement inspiré par Joseph Delteil, la cuisine paléolithique. J'ai presque envie de le dire avec l'accent de Joseph Delteil, mais j'aurais peut-être peur d'être ridicule, parce que ce n'est pas le mien, tout à fait. Et alors, je vais le dire avec mon accent. À moi. Rencontrer une troupe de chênes blancs en bordure d'un campas. Repérer les brûlés. Guetter l'envol de la mouche au pied des férils. Gratter. Santé. Recommencer. Patience. Allez voir ailleurs. Revenez. Grattez. Santé. Elle est là. Délicatement, surtout ne pas la blesser. Détourez patiemment jusqu'à complète liberté. Dans votre main, une truffe. Dénichez puis quelques œufs. Retour dans la caverne. Brossez vigoureusement la truffe. À l'opinel, écaillez-la artistement. Chauffez dans un peu d'huile d'olive, pléonasme. Juste un frémissement. Battez les œufs, décoquillez sel, poivre, huile et pétales de truffe. Battez encore. Plus tard, dans une jatte à feu de grand-mère, sans cesser jamais de remuer, guettez le moment fugace de l'accomplissement de l'alchimie. Servez sans tarder ce mets affirmé et subtil, rustique et raffiné, comme les gens de ce pays.
Merci. Et je suppose, Jean, que ça n'est pas une brouillade de truffes que tu proposes.
Ah non, non, pas du tout. Non, je veux dire, au cours de ces soupes olives. Alors oui, ce qui est intéressant, et on ne s'en est pas aperçu tout de suite, hein. On avait choisi, lors de ces veillées, de faire de la soupe, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Au début, c'était comme ça. Puis aussi, c'était l'idée, voilà, que je disais, la soupe olive, c'est comme une soupe, on fait en fonction de la saison, donc les gens qui sont présents. Et puis, on s'est aperçu que c'est l'autre élément de la culture, pour moi. Parce que on en a fait donc 143, et donc on a eu toutes sortes de soupes, et en particulier des gens qui viennent avec leur soupe parce que c'est l'expression de ce qu'ils ont reçu. On reçoit deux choses de nos précédents êtres humains, hein, on reçoit la langue, hein, on dit la langue maternelle, et puis on reçoit le goût, la soupe en fait, hein, la nourriture. Et on s'aperçoit que les gens arrivent avec ça en avant, c'est-à-dire ils viennent soit avec leur langue, leur accent, leur culture, leur centre d'intérêt, mais ils viennent aussi avec leur nourriture. Et ils disent, ben voilà, moi la soupe, vous allez voir ce que c'est que la soupe à ceci ou la soupe à cela, où les gens peuvent venir de très très loin, de Russie, en disant je vais vous faire un borch, ou on peut avoir une dame serbe qui dit, voilà, je vais vous faire goûter une soupe à je sais pas quoi. Voilà, donc ça fait partie de la culture, parce que c'est quelque chose qui a été reçu et que les gens transmettent au suivant et à d'autres en partage, quoi. Voilà un petit peu au cours de ces soupes ce qui se passe.
Alors, je n'ai pas tout compris. Au cours de ces soupes, la soupe est unique quand même, où on partage diverses soupes?
Pas forcément. Alors, soit elle est unique, c'est-à-dire il y a une personne qui l'a faite, soit il y a tout un tas de gens qui s'expriment. Je me rappelle lors d'une soupe à Barcelonnette, les jeunes du foyer des jeunes ont dit, ben nous, on n'osera pas lire des textes, mais on va s'exprimer au travers de la soupe. Ils ont fait 6 soupes différentes, dont une au chocolat. Et donc, au moment où il y a eu le partage de la soupe, ils étaient chacun derrière leur casserole et ils disaient aux gens, ben voilà, j'ai fait la soupe et j'ai mis des oignons. Et puis voilà. Donc, c'était leur mode d'expression, leur création, comme d'autres écrivent des textes ou chantent des chansons.
Oui, c'est actuel, c'est tout ça. C'est vrai, on produit. Là, ce que tu as dit, Jean, moi, je suis presque pas d'accord avec toi, mais ça ne t'étonne pas. Parce
c'est bien.
C'est bien, c'est très bien.
Parce qu'on passe notre temps à ça, à les gens, souvent, en fait, d'accord. Mais finalement, au bout du compte, on l'est. Bon, en fait, tu dis qu'au début de ton intervention, tu dis que les gens ont reçu la soupe, la langue, etc. C'était vrai, ça l'est de moins en moins. Je suis frappé de voir, parlant de langue, parlons pas de soupe, alors le soupe c'est encore plus facile à changer de soupe, mais je suis frappé de voir que, par exemple, actuellement, il y a une jeune chanteuse du Vaucluse qui s'appelle Lisa, qui chante en provençal, en occitan. Son père est, a une ascendance provençale, mais n'est pas provençal, et sa mère est anglaise et je ne sais pas quoi. Donc, je ne sais pas quoi, ce n'est pas que j'ai oublié, mais danoise peut-être, deux origines comme ça. Et elle parle et elle chante en occitan, mais aussi en anglais, mais aussi en français, mais aussi dans d'autres langues, tu vois ce que je veux dire. Et donc, cette langue-là, l'occitan, elle ne l'a pas reçue, celle-là. Elle est allée se la chercher. À un moment, il y a cette action-là. Moi, je crois que maintenant, on est du pays où, dont on veut être, à un moment ou à un autre. Même moi, je parle pas de moi, mais quand même, même moi, qui suis né ici, etc., etc., si à 18 ans ou à peu près, j'avais pas compris que c'était important pour moi, et si je ne n'avais pas creusé tout ça, je suis allé à la fac pour apprendre le provençal. Non pas pour apprendre à le parler, je le parlais déjà, mais parce que j'ai eu à ce moment-là une autre vision linguistique, etc., etc., du provençal. J'ai abordé la toponymie. Moi, je n'aimais pas la toponymie, alors que, tu vois ce que je veux dire. Et la toponymie, ça m'a fait comprendre aussi beaucoup de choses, enfin, là-dessus. Ce que je veux dire, simplement, j'essaie d'être un petit peu plus court, c'est que la tradition, bravo, très bien, non, mais moi, la tradition...
Oui. Non, mais, c'est vrai qu'on, de plus en plus, ce qui vient, c'est que c'est tout le monde pareil. On reçoit la culture qu'on reçoit, c'est celle des comédiens.
Mais moi, tu vois, j'ai du mal. J'ai du mal à y croire. Ça. Oui. Je pense que ça, c'est un vernis qui recouvre tout. On mange tous pareil, etc. Oui, oui. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai parce que quand tu rencontres quelqu'un, et alors, moi, c'est très vrai quand je vois des gens d'Afrique, par exemple, d'Afrique ou d'Afrique du Nord, j'ai fait pas mal de spectacles ou de choses avec Saïdou Abacha, par exemple, qui est un peu du Cameroun, enfin, il est à Marseille, certes. Mais bon, on se retrouve complètement avec Saïdou autour de tas de choses. Chacun avec son expérience, sa culture. Tu comprends ce que... Et c'est parce qu'on a des cultures différentes qu'on peut s'apercevoir qu'elles sont absolument semblables.
Oui, mais équivalentes. C'est ce que je voulais dire. On a l'impression que tout le monde reçoit les mêmes choses, mais il ressort dans ces moments-là quelque chose de plus ancien qui sort de je ne sais pas où. Et les gens, ils ne vous disent pas je vais vous faire une soupe comme on le fait à la télé, quoi. Hein, ils font une soupe qui leur vient de je ne sais pas où, qu'ils ont acquise, une façon de faire qu'ils ont acquise, soit de leur famille, mais de forcément de leur vécu.
De leur vécu,
c'est tout à fait. Et donc c'est ça qui ressort. Et ils disent, bah, je ne vais pas te faire le truc comme fait le... Voilà, on voit
ça
bien,
n'a pas d'intérêt, ça
aujourd'hui,
n'a pas de sens de faire
la culture,
comme...
La culture, tu viens de parler de truffe, la culture de la truffe, des grands médias et des grands cuisiniers,
ça n'a rien à voir avec les rappeurs de truffes sur un pain grillé.
Nous, on va ramasser la truffe avec les mouches. Les mouches dans une boîte.
Tout à fait.
On va les mouches. Puis voilà, c'est ça. Puis ça ne viendrait pas à l'idée d'acheter une truffe.
Mais bien sûr. Mais bien sûr.
D'abord, c'est trop cher.
C'est ce que j'allais dire. D'abord, c'est un petit peu
au-dessus
de nos moyens.
Non, mais même,
c'est
même pas ça. Quoi. C'est...
Mais surtout... mais c'est... Oui,
bon,
c'est...
On parle de tradition. Je peux vous lire
un
texte très court.
Absolument.
Vous allez voir. Et ça m'a été raconté au Maroc, parce que j'aime bien ce pays. Et je m'y retrouve complètement, parce que voilà ce que c'est la tradition pour eux. Et pour moi. Dans un pays du Maghreb, un groupe de diplomates français fut un jour invité à un banquet. Afin qu'ils appréciassent la fraîcheur de la viande qui s'apprêtait à leur faire servir, leur hôte leur fit apporter sur une soucoupe un œil de mouton. L'ambassadeur crut qu'on lui offrait un morceau de choix. Soucieux de ne pas offenser son hôte, il goba l'œil sur le champ. D'abord interloqué, l'hôte comprit qu'avaler sans respirer un œil de mouton cru était une coutume ancestrale du pays de ses invités.
Et oui.
Il fit donc apporter l'autre œil du mouton que l'ambassadeur avala aussitôt avec une grimace de contentement. Cette tradition fut vite respectée par tous les notables maghrébins et la consommation d'œil de mouton frais augmenta rapidement dans le corps diplomatique européen, valorisant ainsi une antique coutume locale. Voilà. C'est, oui. Et c'est alors, souvent un malentendu. Là.
Et l'origine, c'était quoi? Alors, qu'est-ce qu'il fallait en faire de cet œil? L'histoire ne le dit pas.
Ça, mais c'est eux qui racontent ça, et beaucoup de malice, bien sûr. C'est peut-être la revanche du colonisé, peut-être aussi. C'est pas mal.
Oui.
C'est... Je suis plutôt pour, moi.
Absolument, absolument. C'est vrai que les cultures, les traditions, moi je rentre de Guyane, hein, et c'est vrai que la façon dont se transmettent les choses, c'est assez extraordinaire, hein, cette façon évidente,
l'origine.
Évidente en fait. C'est de...
ben, sans, tu sais, sans... à Castellane, parce que j'en parlais tout à l'heure, à la palais de Castellane, quand il y a un orage, on risque plus de le faire bien sûr, mais à l'époque on dépendait la crémaillère qui était dans la cheminée et on l'a jetée par la fenêtre, on l'a jetée au dehors. C'est un geste qui a l'air complètement irrationnel. Oui. Et ils le faisaient, mais comme ça, parce que ça empêchait, soit dire. Mais pourquoi ils font ça?
Parce que
le faire, ça attire la foudre, c'est tout, quoi.
Je veux dire,
mais ils avaient perdu ce. Ils ne savaient plus ça, mais on jetait encore par la fenêtre, et c'était devenu. Une tradition. C'est ça la tradition.
Et puis on était sûr qu'il n'y avait personne dans la rue, puisque quand il pleuvait, les gens étaient dedans. Mais bon.
C'était un hameau, là, pas lui. Il risquait pas d'y avoir des touristes qui promènent. Enfin, à ce moment-là, ça ne se faisait pas.
Ça ne se faisait pas trop. Tradition. Alors moi, je vais vous dire quand même quelque chose que Daniel dit et que j'aime beaucoup. Hein. Non pas pour montrer le chemin du retour, mais pour aller chercher dans cette culture qui s'efface des matériaux pour fabriquer demain. Et je crois que là, vous vous retrouvez dans cette démarche, hein, quand même. Puisque, alors, je sais que Daniel a fait des collectes, hein, puisque tu continues.
J'aime pas ce mot.
Non, moi non plus, mais malheureusement, on n'en a pas vraiment trouvé d'autres.
Ah, moi, je récolte.
Tu récoltes. Ah oui, c'est joli aussi, tu récoltes.
Si, je récolte. Bon. Et puis, je récolte, je ne sais pas quand je récolte, parce que je me souviens d'histoires qu'on m'a racontées, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et je me suis aperçu... bien après que je m'en rappelais toujours. Donc, j'ai commencé à faire du collectage très tôt. Voilà, et je continue parce que... en permanence, on me raconte des histoires quand même.
Bien sûr, des histoires, mais pas que des histoires. Il y a la tradition du geste,
j'écoute tout ce qu'on me raconte, quoi. Il y a de tout dedans.
Et Jean, ces soupes aux livres sont-elles l'occasion de retrouver, de discuter autour de ce qu'on vient d'appeler, je ne sais pas quoi, tradition, collecte, retrouvailles peut-être?
Non, en fait, c'est venu. Il y avait pas de volonté de retrouver la tradition et de s'appuyer dessus. C'était la simplicité, parce qu'en fait, la veillée, c'est le cercle. Et le cercle, c'est beaucoup plus facile à organiser qu'une salle de classe, hein, avec toutes les chaises dans le même sens. Vous avez remarqué les salles de classe comme les salles de concert, ce qui m'a toujours désespéré. C'est tout bien aligné, bien propre. Et puis, il y a une séparation entre l'estrade, le maître, le mouette, comme on dit chez nous. Je ne sais pas d'où je suis. Et puis, les élèves, quoi. Voilà. Et les spectateurs sont des élèves. Alors que là, l'idée, c'est plutôt de retrouver même un truc tout simple. C'est facile à organiser, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de techniques. On se met autour, si on est peu nombreux, on fait un tout petit cercle. Puis si on est plus nombreux, on fait plusieurs cercles. Voilà. Et alors, on ne collecte pas forcément, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui s'expriment, mais qui s'envolent en fait. L'idée, c'était plus de donner la parole, permettre à des gens... le problème dans ce monde, c'est qu'on est dans la société du spectacle, comme disait l'autre. Et on a donc des gens qui font les spectacles et des gens qui gobent, hein, comme les yeux de mouton. Et là, ça a été plutôt dire tout le monde à égalité, chacun. Et on ne porte pas de jugement sur ce qui est dit, la qualité du texte, la poésie, la chanson. Ce qui compte, c'est que les gens puissent dire et s'exprimer. Alors, il n'y a pas de collectage. Alors, il arrive qu'il y a des choses extraordinaires qui nous séduisent les uns ou les autres. Et nous, en tant qu'éditeurs, on se dit, tiens, ça, c'est intéressant. Mais en général, non, c'est plutôt fait pour que les uns et les autres puissent s'exprimer. Plutôt des moments de partage. Et les paroles s'envolent, en fait. Hein,
oui, non, les paroles ne s'envolent pas. Enfin, je ne suis évidemment pas d'accord.
Jamais d'accord avec évidemment. Moi.
C'est terrible. Quand j'aurais dû vous inviter sur un ring.
Voilà. Non. Je ne crois pas que j'en survivrai.
Non, pas du tout. Toi non plus, certainement pas.
Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Non, simplement... Là, ça y est, les paroles s'envolent, je suis désolée. Oui, non, quand on est comme ça avec des gens, ça, moi, quand j'ai fait du collectage, j'ai jamais enregistré, a priori. Par contre, j'ai pu revenir après parce qu'il m'avait chanté une chanson que je n'avais pas enregistrée sur le coup, mais qui m'intéressait beaucoup. Alors là, je reviens, je dis, ben, tu peux pas me la rechanter parce que là, cette fois, je l'enregistre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce que je sais pas. Et comme ça fait longtemps que je fais ça, comme j'ai un certain âge, évidemment, je sais beaucoup de choses. Donc, quand les gens vont raconter des histoires, souvent, je connais, j'ai entendu, il y a des éléments en tout cas qui sont là. C'est propre.
C'est l'histoire du conte et on le trouve au coin de la rue.
On le retrouve un peu. Bon. Seulement, j'entends des choses. Ah, ça, je n'avais pas entendu. Et moi, ça, je sais, pour l'instant en tout cas, je ne l'oublierai pas.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, je n'ai pas besoin d'enregistrer, je n'ai pas besoin d'avoir un truc, et je sais qui me l'a dit, je sais où on me l'a dit. Enfin, bon,
oui, mais parce qu'il y a la vigilance. Non, c'est parce qu'il y a la vigilance sur le sujet.
Et souvent, j'ai écrit des textes, par exemple, parce que moi, je m'exprime comme ça, juste parce qu'il y avait un petit détail. Je pourrais être très précis, là, il y a un texte que je dois même avoir là, mais c'est un peu long peut-être. Mais c'est juste un détail, et j'en ai fait un conte. Un conte qui a peut-être été, à un moment ou à un autre, un conte traditionnel, mais que je n'ai pas retrouvé, parce que jamais personne ne me l'a raconté. Mais par contre, l'élément de départ, oh, je l'ai entendu comme ça fois, et je trouvais ça fabuleux. Mmh. Donc, ça m'a donné l'envie d'en faire quelque chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Et moi, je crois que le collectage, c'est ça. Parce qu'un collectage systématique, scientifique, où tu vas retrouver le même conte sous 7 ou 8...
Ou 12 versions différentes,
une fois avec pipi là, autre fois avec... Non, c'est... Moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est de la science, ça. Moi, bon, je ne suis pas là pour ça.
Ben oui. Et Jean, il dit, donner la parole, c'est donner la vie.
Oui, c'est ça. Mais on n'existe que si on peut parler, moi, je trouve. Enfin, si on peut s'exprimer. Alors, je dis la parole, ça peut être d'autres modes d'expression. Bien mais sûr. La cuisine, par exemple, la soupe, c'est une façon. C'est pour ça qu'on s'est aperçu très rapidement que c'était, pour beaucoup de gens qui n'ont pas envie de lire des textes, de dire des choses, parce qu'ils n'ont pas écrit, parce qu'ils n'ont pas forcément... Il y a des gens qui ne lisent pas, qui ne savent pas lire. Mais n'empêche qu'ils peuvent s'exprimer au travers de faire de la nourriture. C'est un art... On dit l'art culinaire, donc c'est un art même au plus simple. Quoi. Alors bon, pour revenir sur ce que disait Daniel, oui, les paroles s'envolent pas. Moi, je dirais que dans ces histoires de soupe, c'est jeter tout au milieu et chacun y trouvera son compte. Un petit peu, c'est ça. Et donc, il y a des gens qui vont s'intéresser. Moi, je peux entendre un truc qui me paraît extraordinaire et d'autres n'auront pas fait attention. Et inversement, je vais écouter quelqu'un qui lit quelque chose et dire bref. Et puis quelqu'un va aller voir la personne après en disant, j'ai beaucoup aimé. Pour tous les goûts, quoi. C'est ça un peu. Hein, c'est l'idée. Au moins, faut le mettre en partage pour qu'il y ait quelqu'un qui en tire un profit quelconque. Voilà.
C'est toute l'histoire du chemin des mots. C'est ce que nous essayons de faire dans cette émission aussi, que de trouver quelque chose autour duquel justement on va parler et qui va donner des envies d'aller plus loin, je dirais. Donc c'est vrai que la nourriture, la parole, le livre sont une harmonie sûre. Hein. C'est vrai aussi, j'ai un truc qui est en train de me trotter dans la tête là. En Guyane, justement, où ces 20 ethnies arrivent à travailler et à vivre ensemble. Hein. Il y a une vieille dame qui m'a dit, une vieille dame qui travaille sur le conte depuis très très longtemps, qui ne fait pas de collectage justement, mais qui transmet, qui recherche. Et elle m'a dit, tu sais, pourquoi nous on y arrive? C'est parce qu'on n'essaie pas de faire de la soupe, on se contente de faire une salade russe, chacun se retrouve et n'essaie pas justement d'être noyé dans quelque chose d'uniforme. Et j'avais bien aimé cette histoire-là. Donc on est dans la soupe et on est dans la lutte contre l'uniformisation des choses quand même.
Et à propos de l'uniformisation, de conte aussi, moi je... Enfin, je vais être un peu craché dans la soupe, il y en a qui ne vont pas aimer, mais je trouve que la plupart des conteurs, que j'entends, pas tous, hein, la plupart, ils sont conteurs universels. C'est-à-dire, ils nous racontent un conte esquimau, puis après un conte javanais, puis après etc., etc. C'est-à-dire que leurs histoires, bien qu'universelles, elles le sont véritablement, elles sont de nulle part quand même. Moi, pour reparler de Saïdou ou d'autres comme ça, moi j'en connais... Bon, Parlons de Sergio Diotti, par exemple. Il vient avec ses contes qui sont d'Émilie Romagne. Il parle en romagnol, il ne parle pas dans un autre dialecte. Alors, c'est facilité par le fait qu'en Italie, les dialectes ne sont pas moribonds comme les nôtres, évidemment. Ouais. Mais voilà tout ça. Et Sergio, je suis bien entendu, parfaitement entendu avec lui, et nous avons beaucoup, beaucoup de choses en commun, justement parce qu'il est romagnol et justement parce que je suis provençal. Et que moi, ce que je raconte... Alors, je peux très bien raconter un conte africain. Mais je l'identifierai d'entrée comme un conte africain en disant c'est machin qui m'a raconté ça, ou un conte berbère, puisque j'en ai
Esquimau,
aussi, ou Esquimau, mais je connais pas d'Esquimau. Mm-hmm. Voilà, c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça, quoi. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je continue, je me sens absolument citoyen du monde, absolument universel. Je suis horrifié par le nationalisme qui nous entoure ici et ailleurs, bien entendu. Et je pense que c'est... Mais je suis de quelque part quand même. Je suis pas d'accord avec Brassens quand il chantait les gens. Moi, je suis de quelque part. Ça ne veut pas dire que quelque part je veux me le garder que pour moi. Ça ne veut pas dire que je veux inventer de nouvelles frontières. Bien entendu, c'est pas mon propos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est porteur d'une culture, qu'on le veuille ou pas. Il y a des gens qui croient vraiment qu'ils ne sont pas porteurs d'une culture, qui sont universels. Donc, tu as entendu, des gens qui disent « moi, j'ai pas d'accent ». Ben alors, t'es muet si t'as pas d'accent. Alors, tu ne parles jamais. C'est pas possible de pas avoir d'accent. Je veux dire, et ils en sont persuadés. Ah non, nous, on parle sans accent.
C'est les Parisiens qui disaient ça quand j'étais enfant.
Non, c'est surtout des gens de la vallée de la Loire, paraît-il, où là, on parle sans accent.
Ah bon ?
Pareil, ils n'ont pas d'accent, les Parisiens.
On est en train de faire quelque chose, finalement, sur la langue et sur le partage.
Mais pourquoi pas ?
Bien sûr, pourquoi pas ? C'est peut-être ce qui est aussi intéressant. Hein. Alors, on revient un peu à la soupe, là ?
Oui, si vous voulez.
Un petit peu de soupe.
Revenons à la soupe.
Oui, parce qu'il a tellement craché dans la soupe.
Ah oui, que franchement, les gens ne vont plus manger de soupe.
Moi, c'est mon habitude.
Non, oui, je trouvais très intéressant l'histoire de la salade.
Mais oui, mais la soupe, on peut la couper en petits dés, les faire.
Non, mais d'ailleurs, on n'est pas obligé de la passer, comme on dit. Hein. On peut laisser les morceaux dedans.
Regarde la soupe au pistou.
Voilà. On retrouve quand même les choses et le parfum de chaque chose, si on le veut, si on a un peu de. Voilà. Donc l'idée c'est ça aussi, c'est que chacun y trouve vraiment en disant mais voilà, je mets de côté ce que j'aime pas et puis je
dis, oui, c'est la dimension de partage que je relève très fort dans ce que tu dis. Oui. C'est cette façon dont j'apporte, je donne et puis je prends puisque je partage.
Oui.
Donc c'est assez significatif.
Oui,
je veux dire.
On est toujours surpris. Ouais. On est toujours surpris par moi. On a eu beau en faire un certain nombre, c'est jamais lassant, c'est jamais pareil. Hein. Odile peut en parler parce qu'elle a participé chaque fois. Puis Odile est... Alors ce qui est marrant, c'est Odile, donc Frison, qui est là à côté, et donc vient de temps en temps, et elle n'est jamais pareille. Hein, les auteurs compositeurs interprètes.
Mais parce que
chanter.
Des fois elle est auteur, des fois elle est compositeur.
Moi, à chaque fois, à chaque fois on est surpris. Et les gens qui. Parce que tout le monde évolue. Et chaque soupe au livre est complètement différente. On est toujours surpris. Il y a des gens qui arrivent.
Donc,
c'est totalement inattendu.
Donc tu as des invités dans la soupe au livre parfois.
Tout le monde est invité.
Oui, tout le monde est invité. Mais je suppose que.
Non, il n'y a pas plus
d'invités.
Odile
n'habite pas à Claret. Et si elle y va, c'est parce qu'il y a une invitation quand même, quelque
oui,
part.
Bah, on
non, il
n'y
a
on,
pas
on
un désir
dit,
bah, de tiens, faire tu... découvrir aussi.
Oui, alors il y a des gens qui peuvent l'inviter. Mais aussi, on lui dit tiens, si tu n'as rien à faire, tu viens à la soupe au livre la prochaine fois.
Et comme chacun sait qu'elle n'a rien à faire, elle vient.
Non, mais je veux dire, c'est que ça soit Odile ou une jeune fille qui écrit de la poésie, on découvre des choses, ou quelqu'un qui a un cri à sortir. On a parfois des gens qui viennent aussi parce qu'ils ont des choses à dire importantes. Je me rappelle, dans une soupe au livre, c'était à Montsartou, une jeune fille qui est venue parler des difficultés qu'elle avait eues à vivre... qui a écrit un livre depuis qui s'appelle La rage dans mon cartable, sur la violence à l'école, sur la façon comme elle était petite, qu'elle se faisait casser la tête. Et voilà, donc elle a fini par en faire un livre, donc c'est sorti. Donc ce sont des lieux aussi où on peut dire des choses, mettre en partage aussi des bonheurs et des souffrances. Voilà, je crois que c'est. Au moins on est entendu. C'est pour ça que je dis donner la parole, c'est donner la vie. Au moins il y a quelqu'un qui. Parce que la règle, elle est simple. On peut partout s'exprimer. On peut toujours partout s'exprimer, mais on n'est pas toujours entendu. Hein, je me rappelle, dans une soupe aux livres, des deux jeunes viennent rapper. Hein, ils balancent des trucs sur leur difficulté de vivre dans leur petite leur village quand on est jeune. Et au moment où on mange la soupe, le maire vient me voir en me disant « Mais je ne savais pas tout ça. » Je lui dis « Mais peut-être que vous les avez jamais écoutés. » Même s'ils étaient venus dans son bureau, il ne peut pas les écouter. D'abord, un maire, c'est sourd. Par essence. Et bon. Lui, et parce qu'ils ont. Non, mais oui. Et donc.
Je crains bien qu'il ouais, ait souvent aïe, raison. Aïe.
Eh bien, oui, mais. Bon.
Ils ne peuvent pas entendre tout. Et, la règle de la soupe aux livres, c'est quand quelqu'un s'exprime, les autres écoutent. Qu'on le veuille ou non, jusqu'au bout du texte qui est lu, jusqu'au bout de la chanson qui est chantée, jusqu'au bout du rap qui est rappé. Voilà.
C'est un espace de liberté que vous ouvrez. Parce que quand tu dis ils ne peuvent pas s'exprimer. Il y a aussi une forme de censure quand tu es mal, ou bien quand tu as 15 ans et que tu écris de la poésie, c'est pas forcément simple de raconter à tes collègues de classe qui vont plutôt peut-être en rire.
Oui.
Donc c'est vrai que pour être écouté, il faut quand même qu'il y ait la création de cet espace qui apparemment fonctionne très très bien avec les soupes aux livres.
Oui. Et comme disait Daniel, ils parlent de leurs problèmes à eux. Ils sont pas universels.
Oui.
Ils font pas du rap universel en disant on nique les flics et tout ça. Bon, qui est un peu. Ils disent voilà, on a cette difficulté là. C'est pas forcément avec de la méchanceté, de la violence, mais ils balancent leur questionnement aux adultes qui ont en charge de les aider à vivre.
Mais comment tu veux écrire sur quelque chose que tu connais pas?
Mais évidemment.
Ou quoi que ce soit. Enfin. Bien sûr, c'est pour ça que ça revient un petit peu à ce que je disais, moi. On est porteur d'une culture, même si ma culture, c'est pas forcément la culture de tout le monde autour de moi.
Et y compris de tout le monde autour de toi qui a partagé quelque part la même chose.
Mais oui, hein, mais je me suis rendu compte, il y a déjà longtemps, que bien que nous ayons été longtemps dans la même maison, j'ai pas la culture de mon père, moi.
Ouais.
On n'a pas le même âge, on n'a pas vécu les mêmes choses.
Bien,
et ma fille, qui est dans les mêmes conditions, elle n'a pas ma culture. Nous sommes tous porteurs, mais individuellement, de cultures différentes.
Mais
il faut le dire parce que tout le monde ne s'en rend pas compte.
Et bien
parce que le discours dominant, c'est. On fait tous partie d'un groupe.
Je me suis rendu compte, j'ai trois frères, on est séparés de 2 ans chacun. On n'a sans doute pas vécu au même endroit, ni on n'a pas eu les mêmes parents. Parce que quand on en parle, on se rend compte. Alors, on retrouve des points communs. On s'aperçoit que chacun a une perception et une. Ils ont pris du monde dans lequel ils ont vécu des choses qui peuvent être différentes de soi.
Et puis qui leur étaient nécessaires pour vivre à un moment donné aussi.
Ah oui.
C'est aussi ça qui fait qu'on se construit.
On ne vit pas ce que vivaient les autres.
Tout à fait.
Et le même événement chez l'un ne va pas avoir beaucoup de retentissement, et chez l'autre, ça va prendre.
Oui, oui.
Voilà,
c'est exactement.
Il faut qu'on s'en rende compte.
Il faut le dire. Moi, je revenais juste sur ce que tu disais par rapport au compteur. Dans le cadre des rencontres de la parole, donc qui sont une manifestation de la médiathèque départementale, les compteurs que nous invitons sont porteurs d'une culture. Moi, j'ai pas de conteur qui raconte des contes de partout. Je veux dire que ça existe et c'est ça qui est intéressant.
Je visais pas.
J'espère bien. De toute façon, parce que c'est important aussi d'avoir.
C'est pour ça aussi que j'hésite toujours à m'intituler conteur. Moi, je raconte, dis, je chante, mais est-ce que je suis conteur, je suis chanteur? Alors, c'est comme écrivain, on en parlait un peu là. Écrivain, c'est quoi un écrivain? Moi, je suis un écriveur, ça oui. Je suis sûr d'être un écriveur, mais un écrivain.
Moi, j'écris.
Voilà, j'écris, c'est ça. Un écriveur, c'est quelqu'un qui écrit.
Voilà, oui, tout à fait. Tout à fait. La force des mots aussi, hein. Dans ce mot-là aussi, absolument.
Alors, la force des mots.
Oui. Je pense que Daniel avait un petit texte là qu'il tripote.
C'est pas un petit texte, c'est un grand texte. Mais je me semble qu'il parle un peu de tout ça, en tout cas de culture, en tout cas de partage, et qui parfois peut être avorté, et des relations humaines. Voilà. Je n'étais pas très fier en m'approchant du cabanon de vigne, où je conservais certains de mes biens les plus précieux. Béchard, Liché, Eissad et Sadoun, sulfateuse en cuivre, trench, picouloum pour caver les rabasses, harnais de papillons pour la jardinière et la potelière, vieille ruche. Les derniers outils de mon grand-père. Tradition. Le 16, hérité du grand-père également, et le fauxson qui battait ma cuisse à chaque pas me rassurait un peu. J'étais certain qu'ils s'étaient planqués là. Martial m'avait dit les avoir aperçus ce matin autour de l'Arlin, la dernière source du pays qui donne encore un peu. Je me suis caché dans un buisson de taladais ou à côté de l'Arlin. Malgré le jour qui déclinait, je voyais bien mon cabanon sur le coteau, juste en face. La porte était ouverte. Habituellement, je la tenais fermée avec une barre en travers, et j'étais sûr de ne pas l'avoir oubliée, et j'étais sûr de ne pas avoir oublié de la remettre quand j'étais passé avant-hier. Je me suis avancé, tenant le fusil devant moi comme un paratonnerre. Il est sorti. La chanson qu'il fredonnait a cassé net dès qu'il m'a aperçu. Pétrifiés, l'un et l'autre. Il a esquissé un geste, peut-être pour lever les mains comme à la télé. J'ai pas reconnu ma voix abrupte et rauque qui gueulait. « Qu'est-ce que tu fous chez moi ?» Il a agité les mains et la tête, sans doute pour signifier qu'il ne comprenait pas. Nous sommes restés comme ça, moi et mon fusil toujours levé vers le ciel, lui la tête rentrée dans les épaules comme pour éviter les baffes. Ça a duré une éternité. On ne pouvait pas passer la nuit comme ça, mais comment sortir de cette posture ridicule ? L'idée de génie est venue de lui. J'ai failli lâcher le fusil quand j'ai entendu chanter d'une voix d'abord timide, puis placée, forte et douce. « Oh tristesse, in-t-il si in mine, comme zaboveste toi ma picube, ni qu'un sarun un mitrec et prun sufflet. Oh tristesse, in-t-il si in mine. » Bien sûr, j'ai rien compris. Si je suis capable maintenant de transcrire cette chanson, c'est que je l'ai apprise depuis. J'ai rien compris, mais quand même, la langue dans laquelle il chantait avait un air de famille avec le patois de mon grand-père. Sans réfléchir, j'ai fredonné un couplet d'une des chansons que je lui avais entendu chanter. « Tu t'en vas, c'est au milieu, c'est et mes lèvres sont culottes. » Adieu paure, adieu paure, adieu paure carnaval. Il s'est rapproché, il s'est mis à chanter. Pas les mêmes paroles, mais il connaissait la mélodie. Tout en chantant, il a posé doucement sa main sur mon bras. J'ai déposé le fusil au sol. Ma courte chanson terminée, nous nous regardions, bras ballants. Il a murmuré. « È bella la tua canzone. Anche la tua. » Je me suis alors souvenu d'une chanson des Abruzes. Bello Céline del Bos, Bello Céline del Bos, per la campagna vola Bello Céline del Bos, per la campagna vola. Il a chanté avec moi. Depuis, quand nous nous retrouvons à de grandes tables d'amitié, nous chantons tous ensemble, en patois, en italien, en roumain. Cosa dovrà portar? Cosa dovrà portar? Na lettera sigillata, cosa dovrà portar? Na lettera sigillata.
Merci Daniel. Finalement, nous parlons beaucoup de partage, d'humanité aussi, hein, parce qu'il y a tout ça derrière. Je vous écoute et il me semble que votre désir de partage est un petit peu universel quand même. Hein. On est bien sorti de nos petits précarés. Alors, juste une question à Jean, parce que moi j'ai un petit peu de mal à faire se superposer l'éditeur et cet animateur étonnant que tu es dans le cadre de ces soirées. Je voudrais que tu m'éclaires un petit peu ma lanterne de profane.
J'en sais rien du tout. Non, mais ce que je ressens depuis toujours, c'est que posséder, ça rend malheureux, et partager, ça rend heureux. Je crois que c'est simple. J'ai jamais vu quelqu'un accumuler des choses et en être heureux. Alors que j'ai toujours vu que les gens qui partageaient, ça leur donnait du bonheur. Je veux dire, sans croire à tout un tas de religions et tout ce qu'on veut bien, mais je veux dire, il suffit de regarder les gens. Les gens qui sont malheureux, c'est ceux qui accumulent, qui essayent de prendre aux autres, etc. Ils se marrent jamais, ces gens-là. Hein. Et par contre, ben, partager, donner. Quand les gens donnent, et ça leur fait toujours plaisir. Donc, c'est tout. Alors, la différence ou le ce qui va ensemble avec le, oui. L'éditeur, pour nous c'est la même chose. Donner la parole au travers des livres et donner la parole autour de ces soirées, on s'est aperçu que c'était la même chose. Voilà. Faire des livres pour, c'est aussi pour partager. On me dit toujours quelle est ta ligne éditoriale, mais c'est le partage. On choisit des choses parce que ça nous semble être partageable. Le seul critère, ça n'est pas la qualité littéraire, ça c'est. C'est juste un outil, la qualité littéraire. Enfin, la qualité, la capacité à se faire comprendre des autres, c'est qu'un outil. C'est comme les roues d'une bagnole. S'il n'y en a pas, ça ne roule pas. Donc là, c'est pareil. Écrire correctement pour que les autres puissent le lire. Souvent, il y a de la surqualité. Hein, on voit un certain nombre de gens qui écrivent, c'est tellement compliqué que personne d'autre peut... Là, c'est de la surqualité d'écriture ou c'est de la sous-qualité. Mais il se coupe d'un certain nombre de gens. Quoi. Donc, voilà... pour nous, donner la parole, c'est permettre à des gens qui ont quelque chose à partager de pouvoir le faire. C'est tout.
Oui, parce que dans la maison d'édition dont Parole, hein, oui. Y a quand même un nombre de collections qui est significatif, oui. Et qui touche à la fois à la science, au roman, à la parole de femme, etc.
Oui.
Donc,
mais c'est toujours le même sens du partage, c'est-à-dire un scientifique a appris quelque chose ou découvert quelque chose, et le partage avec d'autres le plus grand nombre possible dans la mesure du possible. Quelqu'un qui a vécu quelque chose dans la collection Main de Femme, une tranche de vie de femme, ça intéresse a priori un certain nombre d'autres personnes, que ce soit des femmes, des hommes ou des enfants. C'est-à-dire ce que chacun a vécu, quand c'est exprimé, mis en forme, ça peut aider des gens en disant ben oui, ben j'ai vécu la même chose, mais je l'avais pas vu comme ça, j'aurais pas réagi comme ça. Je crois que c'est intéressant. C'est ça l'idée de ce partage.
Une question à laquelle tu ne pourras pas répondre, parce que tu dis faire des livres et faire des soupes aux livres, c'est la même chose. Malheureusement, je ne crois pas. Toi, tu fais ça, et pour toi, c'est la même chose. Mais la plupart des autres éditeurs que je connais, enfin tous, quoi, ils ne font pas de soupes aux livres. Ils sont... Alors, peut-être ils ont d'autres objectifs, je n'en sais rien, mais ils ne font pas de soupes aux livres. Et justement, toi, tu les fais, et toi, tu réussis. Pourquoi les autres ne font pas ça? Voilà, mais c'est ça qui m'aide. Ah, c'est pas toi qui vas répondre.
Oui,
tu ne peux pas répondre, t'es mal placé.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et c'est justement... moi, j'ai été en contact avec d'autres éditeurs, enfin, etc. Ils ont toujours des logiques, qui sont des logiques... commercial. Mmh. Et évidemment, il y a un moment où on est obligé d'en passer par là, de toute façon. Il y a un moment ou un autre, tu es obligé d'en passer par là. Mais quand même, ce qui est important de dire pour toi, pour moi aussi, bien sûr, mais dans notre démarche, c'est un peu la même, c'est que il faut qu'on arrête tous de fantasmer et de penser que notre livre, notre disque, etc., il faut qu'on aille le produire à Paris ou à New York, ou ailleurs, dans un lieu dans ce genre-là, et qu'au contraire, on ne peut vraiment, actuellement, hein, et justement parce qu'il y a Internet, hein, justement aussi à cause de ça, on ne peut, à cause ou grâce, bon, on ne peut réussir, alors qu'est-ce qu'on met dans le mot réussir ?
Qu'est-ce que tu mets dans le mot réussir ?
On ne peut réussir que si on fait ça, comme on le disait en venant, ici et maintenant, je vous fais remarquer que c'était notre slogan des années 70. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et on y est toujours, finalement, même si on a un peu évolué aussi depuis. Mais on y est toujours parce qu'on se rend bien compte, avec Jean en tout cas, qu'on peut très bien avoir une action, une vraie action sur la société. Évidemment, c'est une action, mais est-ce qu'elle est si limitée que ça ?
Bien sûr que non, je dirais.
Voilà,
moi,
c'est ça le problème.
Je cite souvent à mes stagiaires la façon dont fonctionnent les chats. Hein. On élargit le tour de la gamelle et c'est ces grands cercles qui finissent par se rencontrer, justement.
Oui,
ça sert pas à grand-chose de rester crispé sur une position en se sentant... maître du monde.
Ou maître rejeté.
Ou maître rejeté, tout à fait. Ce qui est quelque part encore pire.
C'est plus morbide encore.
Ouais. Tout à fait. Alors, on approche sereinement de la fin, hein, de cette émission. Moi, j'ai envie que Daniel nous lise un texte un peu poétique.
C'est un texte.
Et uni. Allez, non, je dis
alors,
rien, je ne dis
c'est
rien.
Un texte éminemment poétique.
Éminemment poétique.
Non, c'est une chanson, en fait. Bon, écoutez, je vous la livre, puis après, si vous avez des commentaires, vous
tu la chantes.
Non, parce que je n'ai pas ma guitare. Non, c'est une chanson que. C'est ma dernière chanson. Donc, voilà.
Pas ta dernière, la plus récente.
La plus récente, oui, je préfère, tu en feras d'autres.
Oui, j'espère, j'espère hein, bien
quand
aussi.
Même.
Non, non, mais quand je dis dernière, c'était dans ce sens-là que je disais. Allons-y. Au plus noir de la nuit, les nuées d'étoiles n'ont pas oublié le chaos originel, les orbes sans lumière, les eaux figées. Puis ce fut le premier matin, la première rosée, la première fleur. Un oiseau enfin s'envola, une étincelle, un cri. Nous sommes venus de la mer. Souverain l'azur du ciel, soleil, soleil, soleil qui tout écrase. Autour de la Mare Nostrum, nous sommes là, à attendre la pluie. Éclairs d'un été fracassé, pains frottés d'ail, amoureux de paroles, ouzo, raki, pastis, arak. Devant la maison, on entend la fontaine. Paroles des femmes au lavoir, cercle des hommes sur la place, assemblée, forum, société, langue vieille si familière. Danse la Méditerranée d'Istanbul à Rio sur les traces d'Ulysse. Socca, farinata, falafel, tukao. Un filet d'huile sur les premières tomates. René Char, Mahmoud Darwish, Albert Camus, Henri De Luca. Cri des martinets déchirant l'espace. Une déesse, une seule. Liberté. Colline calcinée par la rage de l'incendie. Amertume sucrée des févettes. Canicule, volet clos. Olivier, paix et beauté. Chanson vieille à chanter ensemble autour de la table. Nous te portons en nous et nous sommes portés par toi, sans frontières, sans fin, pays.
Ça mériterait un silence derrière.
Voilà, j'ai voulu dire ce qu'était le pays pour moi.
Tout à fait.
Et à pays, il y a un S. En fait, il y en a beaucoup de S.
Il y en a beaucoup de S, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Eh bien, j'ai envie encore de demander à Jean quelque chose, parce qu'en écoutant Daniel, et puis par rapport à plein d'autres choses, j'étais en train de penser à l'homme semence et à la façon dont ce texte a fait un tel chemin et à le lier, je le lis complètement à une histoire d'ici et maintenant, justement. Donc, après avoir dit quand même un immense merci pour le travail qui a été fait autour de ce texte, la façon dont la reprise BD, etc., dont les ouvertures scéniques ont été mises en place, j'ai envie de t'entendre un tout petit peu me parler de ce rayonnement.
Mais je crois que je sais pas, c'est simple, c'est une espèce de ça touche des gens, donc ils le colportent. C'est un travail de colportage. Daniel parlait de récolter des textes et qu'il a parfois entendu plusieurs fois. Donc c'est à partir du moment où les gens sont touchés, ils le transportent et puis ils l'offrent à d'autres. Enfin voilà, on est dans le partage là encore une fois. Donc et puis ça fait son chemin et puis les gens qui ont un mode d'expression, ils vont le traduire ou en bande dessinée ou dans une autre langue ou en théâtre et voilà. Puis d'autres pourront à ce moment-là y accéder, etc. Quoi. Je crois que c'est tout. C'est lui qui fait sa vie. Il n'est pas poussé à l'engrais. Il n'y a pas de grands médias pour le pousser.
Tout à fait.
Je crois que c'est le bouche-à-oreille qui fait. Et c'est le meilleur outil de diffusion de quelque chose qui touche. Ouais, je crois que c'est parce que ça touche les gens. Après, beaucoup plus que la qualité de l'écriture ou n'importe quoi.
Je peux me permettre de dire, je crois que ce qui a touché, ce qui nous touche beaucoup là, c'est deux choses. C'est d'une part le contexte, 1851, qui est quelque chose que nous, avant, dans les années 70, quand nous faisions la Bugade, nous avons découvert parce que personne ne savait rien. Et il y a des gens qui ont travaillé là-dessus beaucoup pour exhumer ce moment de notre histoire, premièrement. Et deuxièmement, c'est le thème. C'est la vie, c'est le thème de la vie, l'homme semence.
Ah ben oui, c'est le thème de la vie.
Et c'est ça qui est très fort là-dedans. C'est d'une part le contexte, nous rappeler, nous ramener à quelque chose qui pourrait sembler très local, mais qui est très universel, parce que c'est la lutte pour la liberté et pour la démocratie.
Tout à fait, non mais tout à fait.
C'est ça qui est important, la démocratie plus que la liberté encore là-dedans. Et en même temps, on parle de quelque chose qui a toujours existé, l'amour, enfin le sexe, etc. Il y est dans ce livre-là. Et c'est ça qui est très fort, voilà. pour ça que c'est pas par hasard que. Et moi, je ne crois qu'au petit livre. L'étranger de Camus, c'est un petit machin comme ça.
Ah, c'est un petit
ça.
Livre.
Voilà.
Le
et tu,
rôle,
les, voilà, livre, c'est toujours des choses comme ça. Et je crois que ce livre-là va rester, pas, peut-être pas à cause de 1851, mais à cause du reste, du thème et de tout ça.
À cause du thème. Eh bien, on a non pas tout à fait bouclé le thème d'éveillé, hein, on s'en est très très souvent éloigné, mais on s'en est éloigné effectivement sur la vie, sur la parole, sur le partage. Et on ne peut que dire, lisez des livres petits, lisez les livres proposés par les éditions Parole, écoutez Daniel, parce que quand même, moi j'ai fait des découvertes très émouvantes, et puis j'espère qu'on nous retravaillerons quand même ensemble. Donc c'était dans le Jardin des mots, c'était une petite promenade, j'espère qu'il y en aura d'autres, et il me reste à vous dire un grand merci.
Ouais, merci à toi aussi.
Qu'on me laisse mes souvenirs, qu'on me laisse mes amours mortes. Il est temps de fermer la porte, il se fait temps d'aller dormir. Je n'étais pas toujours bien mise, j'avais les cheveux dans les yeux. Mais c'est ainsi qu'il m'avait prise, je crois bien qu'il m'aimait un peu. Il pleut sur le jardin, sur le rivage. Le vent du nord qui s'amoncelle s'amuse seul dans mes cheveux. Je n'étais pas toujours bien belle, mais je crois qu'il m'aimait un peu. Ma robe a toujours ses reprises et j'ai toujours les cheveux fous. Mais c'est ainsi qu'il m'avait prise, je crois que je l'aimais beaucoup. Il pleut sur le jardin, sur le rivage. Et si j'ai de l'eau dans les yeux, c'est qu'il me pleut sur le visage. Si j'ai fondu tant de chandelles depuis le temps qu'on ne s'est vu, et si je lui reste fidèle, à quoi me sert tant de vertu? Qu'on me laisse mes amours mortes, qu'on me laisse mes souvenirs. Le temps d'essayer d'en sourire, il pleut.